Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter du livre « Pendant que Perceval tombait » de Tania Langlais. C'est publié aux Herbes Rouges en août 2020. Le livre est inspiré du roman « Les Vagues » publié en 1931 et écrit par l'autrice britannique Virginia Woolf. J'en discute avec mon équipe. Mon nom est Étienne Robidoux. Vous écoutez le balado « Forêt blanche ». J'ai avec moi aujourd'hui Iba Benchakroun et Olivier Hamel. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour Étienne.
Vous allez bien?
Oui, toi.
Oui, toi.
Oui, ça va. Tous les trois, nous avons lu Pendant que Perceval tombait, écrit par Tania Langlais, une poète québécoise née à Montréal. Pendant que Perceval tombait, c'est son quatrième recueil de poésie. Elle a écrit en 2000 12 bêtes aux chemises de l'homme. En 2004, La clarté s'installe comme un chat. En 2008, Kennedy sait de quoi je parle. Et finalement, en 2020, pendant que Perceval tombait, tous ces recueils-là ont été publiés aux Herbes Rouges. Et pendant que Perceval tombait, c'est un recueil de poésie qui est inspiré du roman de Virginia Woolf, Les Vagues, publié en 1931. Rappelons que Virginia Woolf est une écrivaine britannique. Et le roman le plus expérimental de Virginia Woolf serait « Les vagues ». Bon, c'est ce que j'ai lu sur les internets. On va pouvoir en parler avec Olivier qui a lu le roman. Il faut savoir, et c'est un petit avertissement pour les auditeurs et auditrices, on va aborder la question du suicide parce qu'on en parle dans le recueil de Tania Langlais. À l'âge de 59 ans, en 1941, Virginia Woolf se suicide par noyade. Et on va l'évoquer dans le recueil « Pendant que Perceval tombait ». Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans ce recueil-là. Dès les premières pages, il y a quelque chose de tragique. C'est la fatalité. On nous dit « cette histoire n'ira pas bien, on meurt à la fin ». Et même quand on le répète souvent, c'est comme c'est inévitable. Et ça revient un peu comme le mouvement des vagues sur la berge. Il y a quelque chose de cyclique. C'est comme si on se résignait un peu à ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème de la fatalité? Peut-être, Iba, qu'est-ce que tu penses de ce thème-là de la mort et de ce qui est inévitable, finalement?
Ben moi, je pensais que le thème de la mort était vraiment très, très récurrent dans l'écrit. En fait, on pouvait comme l'apercevoir par exemple, plusieurs figures de style qui est nécessairement propre au style de la poésie. Mais, exemple, l'un de ces figures de style que j'avais remarqué beaucoup, c'était l'euphémisme. Sinon, on avait beaucoup aussi de la personnification, justement, par le personnage de Perceval. Qui, moi, personnellement, je ne sais pas si c'est seulement moi, mais j'ai jamais vraiment su, finalement, c'était un cheval ou une personne. Oui. Donc, par la personnification, je comprends. Nécessairement, j'aperçois la personnification, on pensait que c'était un animal, c'est le cheval. T'sais, finalement, c'était comme l'incarnation de la chute de l'auteur. Comme la chute du cheval, on a la chute de l'auteur. Mais des fois, on avait l'impression de parler à une personne. Je ne sais pas si c'est justement par ce lien qu'on semble créer entre le cheval et l'auteur. Je ne le sais pas. Je ne le sais point. Je ne le saurais peut-être probablement jamais. Mais je trouvais ça super intéressant. Mais de là, je trouvais que, alors que normalement, la mort, pour moi en tout cas, c'est, puis pour plusieurs personnes, j'imagine aussi quand même, c'est quand même logique, c'est l'idée d'un silence, c'est l'idée d'une incapacité de pouvoir communiquer, de pouvoir faire usage de du langage. Mais là, dans le poème, on semblait utiliser la mort pour justement pouvoir entreprendre une certaine écriture poétique, entreprendre un certain jeu poétique avec un jeu de la forme, un jeu du fond, etc. Et on faisait ça à partir de la mort. C'était tellement récurrent dans l'écrit que ça semblait presque être l'outil poétique même, comme si même le crayon de l'auteur n'était même pas son outil, mais plutôt la mort, comme si à partir de la mort qu'elle était capable d'écrire cette œuvre-là, cette création-là littéraire. Et puis, je trouvais ça super intéressant parce que, nécessairement, comme j'ai dit, il y a un paradoxe. La mort, c'est supposé être est porteur de silence, mais là, la mort, ça va être porteur de poésie. Et dit de même, je trouve ça super beau. Et donc, voilà.
C'est intéressant, c'est intéressant. Tu parles de Perceval, parlons de ce personnage-là qui est quand même présent, puis qui, en plus, qui est dans le titre. C'est un personnage dans Les Vagues de Virginia Woolf. Et il semble qu'il y ait un rapprochement entre Perceval et Virginia Woolf, parce que dans le recueil Pendant que Perceval tombait, Tania Langlais, ou en tout cas la narratrice, s'adresse à un tu. Et ça m'a pris du temps, croyez-le ou non, mais ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était Virginia Woolf. Je l'ai compris à la 96e page. Mais est-ce que pour toi, Olivier, ça t'a aidé à comprendre mieux le recueil, le fait d'avoir lu Les Vagues de Virginia Woolf? Est-ce que ça donne des clés de compréhension sur qui est Perceval, quel est ce personnage-là? Parce que c'est vrai que on arrive là, qui est Perceval? On se demande.
Oui, bien, en fait, après ma lecture des vagues, justement, je trouve ça très éclairant de lire le recueil de Tania Langlais parce que je le perçois en fait un peu plus comme un essai poétique sur non seulement la fin tragique de l'autrice Virginia Woolf, mais aussi sur ce roman-là très important dans sa carrière qui est Les Vagues. Et moi, je connaissais la figure de Perceval qui est une figure particulière, organisatrice dans les vagues, mais qui est dépourvue de voix. Donc, le roman Les Vagues, pour les auditeurs et auditrices qui ne l'auraient pas lu, c'est un roman qui se raconte par six monologues intérieurs. Donc, il y a six personnages qu'on suit de leur enfance jusqu'à la fin de leur vie et qui se relaient à coups de monologues intérieurs pour raconter le récit de toute leur vie. Et Perceval, c'est un personnage central, un personnage qui est parlé, mais un personnage non parlant. Donc, lui, il ne fait pas partie de ces six voix-là. Il est juste une figure qui revient, qui est récurrente, et surtout une figure pivot qui, lors de sa mort, qui survient environ au centre du roman, vient bouleverser chacun des personnages d'une façon différente
Et
pour ce
comment il
que c'est.
meurt? Comment il
Il
meurt?
meurt à la guerre en tombant de son cheval, justement.
Okay.
Donc, Perceval, c'est un cavalier. Et c'est quelqu'un qui part à la guerre, qu'on espère qu'il revienne. Et finalement, après un dernier repas symbolique, Perceval ne revient pas de la guerre. Cela bouleverse les personnages. Et dans cette même lignée, j'ai l'impression que le recueil de poésie de Tania Langlais vient en fait lier cette figure de Perceval-là à la fin tragique de Virginia Woolf. Un peu comme si on essayait de percer l'oracle de cette fin tragique-là dans l'œuvre de l'autrice. Un peu comme si on recherchait un certain cri d'alerte, un certain appel à représenter cette douleur-là qui devait affliger l'autrice pour qu'elle mette fin à ses jours, finalement.
Par rapport à ce que tu dis, j'ai envie de lire un poème que je comprends mieux maintenant que tu me dis tout ça, justement. Voici que les chevaux morts se relèvent avec toi, rentrent à la maison, stupéfaits de clarté. Nous sommes arrivés au commencement, dis-tu, et le premier matin sera paisible. Ce qu'on voit là-dedans, c'est, et dans le recueil plus généralement, il y a un paradoxe, tu sais. C'est comme cyclique. On a l'impression quasiment qu'il meurt plusieurs fois, ou en tout cas que c'est anticipé plusieurs fois. Et je reviens à ça, mais le mouvement des eaux. Certains vers sont répétés plusieurs fois, comme celui où elle va dire que elle n'arrive pas à écrire proprement. Il y a vraiment cette idée-là, surtout à la deuxième partie, là, vers la fin, écrire proprement. C'est comme un leitmotiv, là. Il est mort, et puis depuis la mort de Perceval, j'ai de la misère à écrire. Pour moi, ça restait mystérieux, puis j'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce que quand elle dit j'ai de la difficulté à écrire, j'ai d'abord pensé que c'était Virginia Woolf, puis ensuite j'ai dit mais peut-être que Tania Langlais parle de sa propre écriture. Ou encore, c'est peut-être la narratrice qui est une autre personne indépendante. Qui est cette personne qui a de la difficulté à écrire et pourquoi, selon vous? Je lance la question.
Ben moi, je l'ai aussi vu ça. Cette capacité d'écriture, je l'ai aussi vue. Personnellement, j'ai vu un autre paradoxe. On parle de plusieurs paradoxes durant ce balado-là. En fait, j'ai vu le paradoxe de la mort de l'auteur selon le philosophe Roland Barthes, qui lui parle d'une mort d'un auteur comme idée où finalement la position très importante, très prédominante de l'auteur sur une œuvre, où finalement on imagine que c'est la source même du sens, du contenu profond d'une œuvre vient de ce même auteur-là. Mais à travers cet écrit-là, on semble justement dire que du fait que, parce que Roland Barthes, en fait, parle de la mort de l'auteur, justement, je m'excuse, je ne l'ai pas précisé, mais parle de la mort de l'auteur, finalement, comme la libération du texte, la libération d'un texte qui est capable de communiquer une idée, communiquer un message par ses propres moyens, par son propre langage, finalement, et qui n'a finalement plus besoin de l'auteur pour être capable de transmettre quoi que ce soit. Donc voilà. Mais dans l'œuvre, on parle plutôt de la mort de l'auteur comme l'échec d'un texte, l'échec du texte à être capable, justement, de communiquer quoi que ce soit. C'est comme si finalement, puisque l'auteur chute, le texte doit nécessairement, irrémédiablement chuter avec elle, avec lui. Alors que c'est un certain paradoxe, parce que normalement, à la mort de l'auteur, on y pense comme la libération du texte, mais là, c'est plutôt la mort du texte. Puis là, comme je le disais tout à l'heure, le texte parle tellement de mort qu'on semble dire que finalement, ce texte-là ne vit plus comme l'auteur ne vit plus. Puis ça me vraiment
Qu'est-ce que tu
c'est
veux
comme
dire par là que le texte ne vivrait plus? Qu'est-ce que tu veux
ne vit
dire?
plus parce que l'auteur n'existe plus. L'auteur n'existe plus pour être capable de nous faire comprendre ce qu'il doit transmettre. Dans le fond, l'auteur, c'est comme si, vu que l'auteur ne vit plus, pas seulement l'auteur, mais je dirais aussi ses intentions d'écriture, ben finalement le texte, vu qu'on n'a plus accès justement à ses intentions auprès de l'auteur, ben on peut plus savoir finalement le texte parle de quoi, alors qu'on sait à peu près tous de nos jours qu'un texte peut très bien vivre sans son auteur. La preuve, c'est les diverses lectures qu'on peut en faire. Chacun va le lire selon sa personnalité, sa vision du monde, ses points d'intérêt, etc., etc., etc. Et ça crée quelque chose de super intéressant qui est comme la multitude de façons de lire différentes. Donc, c'est ça. Donc, j'ai vu un paradoxe à travers ça, mais j'ai trouvé super intéressant. On dirait que ça m'a comme heurté finalement dans cette vision de Barthes sur lequel je m'enlignais aussi, on va dire.
Et par rapport à la difficulté d'écriture, c'est de trouver aussi le bon titre. Ça revient souvent. Et ça, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que ça veut dire exactement. Même le dernier chapitre, il y a 4 chapitres, et le dernier chapitre, le titre, c'est ceci, tu recommençais à trouver de bons titres. Puis là, c'est ça, j'ai compris peut-être que le tu, faisant référence à Virginia Woolf, c'est peut-être que ça voulait dire que elle finissait un peu par retrouver son inspiration. Mais encore là, c'est paradoxal parce que c'est le chapitre, en tout cas, il me semble que oui, c'est le chapitre où est-ce qu'elle va mourir, ou en tout cas, on va parler de son décès, et c'est tragique parce qu'elle va mourir par noyade, se suicider par noyade, et va être retrouvée 3 semaines plus tard. Et ça, c'est décrit dans un poème. C'est assez frappant quand même comme chose. Et puis, on parle qu'elle va mourir, mais on parle aussi de résurrection. Bref, je sais pas si toi, auditeur, auditrice qui nous écoute, tu es un peu mélangé des fois avec tous ces thèmes-là, mais moi, ça m'a mélangé. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de thèmes. Est-ce que, Olivier, pour toi, je reviens à ça, mais est-ce qu'il y avait peut-être plus de clarté à cause des clés de compréhension que tu avais après avoir lu Les Vagues?
Ouais, peut-être un peu personnellement dans ce leitmotiv-là de je recommence à trouver des bons titres qui revient à plus ce vers-là qui revient à plusieurs reprises, qui est le titre d'une section, comme tu l'as mentionné, et chose importante, qui est aussi le dernier vers du poème, du recueil au complet. Donc le recueil se termine sur ce vers-là. Je recommence à trouver des bons titres. Moi, ça me donne l'impression que le recueil s'ouvrait un peu sur l'acte d'écriture. Et j'y voyais deux parallèles différents. Donc, un premier lié à Virginia Woolf, parce qu'en faisant des recherches sur Virginia et l'écriture des vagues, il y a certains qui vont avancer que le personnage de Perceval qui décède est un peu la figure du frère de Virginia qui s'appelle Toby et qui serait mort d'une fièvre typhoïde à l'âge de 26 ans, qui aurait été un événement marquant, qui aurait perturbé la vie de l'autrice. Et peut-être une certaine extension vers la vie de Tania Langley, qui demeure des spéculations, je veux dire, je ne sais pas, mais il y a une chose qui m'avait marqué, c'est que le recueil commence par une dédicace qui dédie à SP et qui annonce « Je t'ai cherché dans plein de livres, tous les livres. »
Oui, oui, je t'ai cherché dans tous les livres pour SP.
Oui, exactement. Et moi, quand j'ai lu cette dédicace-là, ce que ça m'a fait penser d'entrée de jeu, c'est « D'accord, j'ai cherché une figure dans tous les livres, je ne l'ai pas trouvée. Je vais donc écrire ce livre où cette figure-là va se retrouver pour moi. » Donc, c'est peut-être un parallèle entre une personne, justement, qu'on a perdue, peut-être pas par la mort, peut-être pour d'autres raisons, un éloignement quelconque, mais... ça me faisait penser aussi quand je dis que le recueil s'ouvre sur l'acte d'écriture, ben, c'est un peu dire que l'écriture, en fait, naît des tourments que l'on vit dans la vie. Donc, si tout va bien, on n'a pas cette puissance-là pour écrire, ça nous prend des tourments qui ont peut-être été un peu trop grands et qui ont fini par emporter Virginia Woolf, mais des tourments qui ont aussi donné de très grandes œuvres qu'on lit et qu'on étudie encore aujourd'hui.
On pourrait presque dire que ce recueil-là, c'est un peu une tragédie, en ce sens qu'il y a une écriture tragique là-dedans. Mais parlons un peu de la forme. Le recueil, c'est des poèmes assez courts, hein? Une dizaine de vers, parfois moins. Les vers sont courts. J'ai l'impression que en lisant, le rythme était assez effréné. Hein? Je lisais, puis... Moi, j'aime bien le lire à voix haute, mais tu sais, je le lisais à voix haute 2, 3, 4 fois. Puis, ça, malgré tout, ça allait vite. Il y avait comme un effet de glissement. Et ce glissement-là, on dirait justement, accentuait cette fatalité-là, qu'on glisse rapidement vers la mort, la disparition. Je veux vous entendre là-dessus. Tiens, Iba, est-ce que ça t'a plu, toi, cette forme-là?
Ben, moi, j'avais l'impression que ça allait de plus en plus vite, finalement, comme tu l'as dit, comme si on allait de plus en plus vite vers la fin, vers notre fin, notre mort. Mais en même temps, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'on allait vite, mais en même temps, c'est comme si finalement, on revenait toujours à la même chose aussi. Je l'ai dit, on parlait, tu sais, par diverses... je l'ai dit un peu tout à l'heure déjà, mais par diverses figures de style, on parle tout le temps de la même chose. Puis là, des fois, je me rappelle, je lisais, puis là, je me dis, bon, peut-être qu'à la prochaine page, je vais être capable de découvrir autre chose, peut-être une autre image, un autre sens, un autre contenu, etc. Mais finalement, c'était toujours les mêmes choses. D'ailleurs, je pourrais vous lire... Peut-être
quand tu dis les mêmes choses... Ouais, excuse-moi de t'interrompre juste avant. Quand tu dis les mêmes choses, de quoi tu parles exactement? Est-ce que c'est les thèmes? Est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est...
Ben, je dirais justement l'idée de mort. Justement, j'étais plutôt claire, mais l'idée de mort, l'idée de fatalité, l'idée de fin, etc., tragédie. Oui. D'ailleurs, un des euphémismes, par exemple, que j'ai relevé, ça serait, si je peux me permettre, « Tu ne sais que descendre en eau froide ». Donc là, on a l'idée non seulement de la noyade, l'auteur de Virginia Woolf, mais on a aussi l'idée de descendre, donc de chute, de mort, etc., en eau froide, donc exactement quelque chose qui est comme pas plaisant, quelque chose qui nous glace, qui nous fait peut-être penser au froid du royaume des morts, juste comme ça. Sinon, il y avait aussi comme périphrase, par exemple, que j'avais aussi relevé. Donc, j'avais relevé « Les Allemands sont aux portes du jardin ». Donc, les Allemands, ça nous fait penser un peu comme à la Deuxième Guerre mondiale, au fait que c'était un peu les personnes qui venaient comme engendrer une certaine mort chez une certaine population. Puis, aux portes du jardin, moi, le jardin, ça me faisait penser à l'idée de poésie. Le jardin, la nature, souvent la source d'inspiration première de la poésie. Fait que finalement, c'est comme si la mort est aux portes de la poésie. La mort est présente à l'intérieur de cette poésie-là. Puis c'est comme si finalement, puis aussi il y a l'idée selon laquelle t'es aux portes. Fait que finalement, vu que la porte est la seule issue, il n'y a aucun moyen de s'en échapper. La mort est là, puis on ne peut pas s'en dérober. Donc encore une fois, on a l'idée de fatalité qu'on ne peut pas dévier finalement. Donc voilà.
La fatalité et la vitesse dont je parlais tout à l'heure, je veux l'illustrer en lisant un seul vers qui nous rappelle que tout cela se passe en une journée. Et ça, j'aime quand même cet aspect-là du livre. C'est vraiment comme une histoire. Tu sais, il y a vraiment un fil conducteur. C'est Perceval, c'est Virginia Woolf, c'est cette chute, ou plutôt ces chutes tragiques. Et je vais vous lire un autre extrait, trois pages plus loin, qui, je trouve, donne un bon aperçu du style du recueil en entier. Là-bas, ce serait mieux. Tu dessines des vagues qui se referment par-dessus la maison. Tu dis, ce soir, Perceval va tomber comme la nuit. Alors, vous voyez, très court, encore une fois, très... c'est ça, il y a comme une concision, puis ça frappe quand même cette... des fois, j'ai l'impression que c'est comme une lame. Peut-être, bon, mon exemple est un peu extrême, là, mais je ne veux pas dire que ça fait mal en lisant. Non. Mais ce qui m'a peut-être un peu accroché, par contre, c'est l'opacité du sens global. En tout cas, moi, qui m'a peut-être échappé à ma première lecture, la deuxième lecture, déjà, c'était plus clair. Mais il y a diverses choses qui, je pense, m'ont échappé. Olivier, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, bien, justement, tu parlais de ce rythme-là de lame. Une lame, ça fait référence aussi aux vagues, hein, qu'on parle d'une vague rase qui détruit tout sur son passage. Et il y a cette idée de dilatation-là du temps. Donc, tout se passe en une journée, mais ce qui se passe en une journée, c'est pas 24 heures, c'est toute une vie. Et c'est une idée qui est autant présente dans les vagues de Virginia Woolf que dans le recueil de Tania Langley. Donc, comme je l'ai dit tantôt, dans les vagues, c'est six soliloques, donc six monologues intérieurs qui relient toute une vie. Mais il y a aussi des descriptions périodiques qui séparent le texte quasiment en chapitres, si on veut, des vagues à différents moments de la journée, de l'aube au crépuscule. Donc, on a cette idée-là que toute une vie se joue en une seule journée, un peu comme si toute la vie de l'autrice, Virginia Woolf, s'était jouée juste avant sa mort, donc dans les 24 heures qui précèdent sa fin tragique. Et je pense qu'il faut lire le livre de Tania Langley justement dans cet esprit-là de la dilatation du temps. Donc un temps qui s'étire à la fois sur toute une vie et qui se résume à la fois en une seule journée. Un peu comme si finalement tout ce que l'on retient de quelqu'un, de son passage sur Terre, c'est sa dernière journée. C'est ce qu'il va avoir fait. Ce sont ses derniers mots finalement. Et tout ça.
Iba, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, que ce soit sur le fond ou la forme de ce livre-là, qui t'aurait peut-être marqué?
Non, mais tout à l'heure, j'ajouterais peut-être un point sur peut-être que je n'étais pas claire tout à l'heure, par contre. Quand je disais tout à l'heure que tu parlais de la capacité d'écriture, je me suis rendu compte que mon propos, j'avais oublié un point important pour revenir justement à ta question. Pourquoi, selon moi, pourquoi la mort de l'auteur, selon le philosophe Roland Barthes, me permettait de penser cette capacité de l'écriture, c'est que j'avais l'impression aussi que quand je parlais de la place importante de l'auteur au-dessus du texte, comme quoi sans le texte, sans l'auteur, le texte ne peut plus vivre, je pensais aussi l'idée que l'auteur, la poète Tania Langley, semblait justement mettre Virginia Woolf sur un piédestal, sous une certaine lumière, puis même dans l'écriture, on parlait de Virginia Woolf à travers la personnification, la périphrase, peu importe, de Perceval, le personnage Perceval, mais on en parlait aussi selon l'idée d'une lumière. C'est comme si finalement, c'est la lumière qui éclaire, c'est la lumière qui nous guide, et c'est la lumière sur laquelle, si on n'a plus cette lumière, ben on est perdu, puis on ne sait plus quoi faire. Puis justement, j'ai l'impression que c'est, selon moi, c'est comment je l'ai lu, que cette capacité d'écriture, c'est justement par le fait que, puisqu'elle avait perdu son phare, sa lumière d'écriture, son inspiration, sa source d'inspiration, elle ne peut plus écrire. Elle n'a plus son phare, quoi. Je vais réutiliser cette image-là, je l'ai bien aimée. Donc, voilà.
Moi, j'aime ça que tu parles du phare, Iba, parce que... Le titre, il y a un autre titre de Virginia Woolf que c'est « To the Lighthouse ». Donc, ça se passe justement dans un phare. C'est une autre de ses œuvres qui est quand même présente dans l'intertextualité mise en texte par Tania Langley. Et pour cette incapacité-là d'écrire, j'avais l'impression qu'il y avait cette idée-là qui était véhiculée que une fois qu'on a réussi à parachever son œuvre, à parachever son texte, c'est comme s'il ne nous restait plus rien à écrire. Et d'où, encore une fois, la répétition du « je recommence à trouver des bons titres », donc de ce verbe-là qui est répété à plusieurs fois. C'est un peu comme si, après avoir écrit une œuvre grandiose, Virginia Woolf n'avait jamais été capable de réatteindre, malgré d'autres grandes œuvres, de réatteindre ce sommet-là qu'elle avait atteint dans les vagues. Et c'est un peu ça qui aurait finalement déclenché sa catabase. Donc, le fait de toujours essayer de vivre sous ces projecteurs-là, sous cette lumière-là qu'on lui donne, c'est ça qui l'avait finalement miné.
Très intéressante analyse de la part de mes collègues Olivier Hamel et Iba Ben-Chakroun. Merci beaucoup d'être venu discuter avec moi de ce recueil-là pendant que Perceval tombait de Tania Langlais, publié en 2020 aux Herbes Rouges, une édition de poésie et de romans aussi. J'espère qu'on va se retrouver bientôt. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Merci aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud ou Spotify et abonnez-vous, pourquoi pas. Et ce serait apprécié. Donc, je vous souhaite une bonne journée. À tous et à toutes, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.